Bienvenue sur Décidéo, le podcast des passionnés de data, présenté par Philippe Nieubourg.
Bonjour à tous, bienvenue sur Décidéo, le podcast qui vous parle de data. On va vous parler bien entendu de data aujourd'hui, mais on va aller un petit peu de l'autre côté. On va aller du côté du code et on va en parler avec un spécialiste justement du no-code et du low-code. Vous avez certainement entendu parler de ces notions-là. On va les détailler puis on va parler de l'impact sur les données. Et donc nous sommes aujourd'hui avec Romain Delalande. Romain, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors, vous êtes manager solution consulting France chez Pegasystem. Vous allez nous expliquer un petit peu, peut-être en deux mots d'abord, ce qu'est Pegasystem et sa solution Pega. Et puis, on va démarrer tout de suite avec la question de base qui intéresse tous nos auditeurs. C'est, selon vous, c'est quoi le low-code, le no-code? Et de quoi parle-t-on quand on parle de ça? Et quelle est la différence entre les deux?
Merci tout d'abord, Philippe, de me recevoir pour ce podcast. En quelques mots, Pegasystem est un éditeur de logiciels américain qui équipe les plus grandes organisations du monde, et notamment en France, justement avec une technologie d'automatisation des processus et d'aide à la décision grâce à l'intelligence artificielle, tout ça dans une construction low-code et no-code. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce que le low-code, qu'est-ce que le no-code et la différence entre les deux? Les développeurs, les entreprises, les informaticiens connaissent depuis de nombreuses années les environnements dits de développement rapide. On parle parfois de RAD, Rapid Application Deployment. Le low-code et le no-code, c'est la capacité de construire des applications métiers en utilisant des métaphores, des modèles visuels, en utilisant des outils de drag and drop pour construire des workflows, pour construire des interfaces homme-machine, des applications web, des applications mobiles, pour construire des règles métiers sans écrire de lignes de développement dans un langage informatique comme le C#, le Java ou le PHP.
Et alors, entre le no-code, où on pourrait dire il ne doit pas y avoir une ligne de code, et le low-code, est-ce que ça veut dire que finalement on s'en autorise quelques-unes de temps en temps, hein?
Généralement, le no-code, c'est vraiment sans absolument aucune ligne de code et avec des modèles de conception extrêmement simples. Cela vient souvent avec un frein, c'est la richesse de ce que l'on est capable de construire, la complexité que l'on est capable d'implémenter avec ces modèles très simples. Le low-code, en revanche, peut se permettre la liberté d'intégrer parfois des modèles de pseudo-code, par exemple pour construire des boucles, des itérations, sans forcément rentrer dans du pur code où on va écrire des classes Java, intercepter des exceptions, etc. Mais on va avoir un langage un peu plus riche, moins no-code, mais néanmoins sans ligne de code pour construire des applicatifs un peu plus complexes, un peu plus poussés.
Alors, à qui ça s'adresse tout ça? Parce que aujourd'hui, je suis responsable marketing dans une grande entreprise, contrôleur de gestion, etc. Je suis à l'aise pour décrire un process, pour peut-être écrire même un genre d'algorithme, expliquer comment les choses peuvent se résoudre dans un système, mais j'ai pas de compétences de programmation. Est-ce que ces outils-là me permettent à moi, contrôleur de gestion, responsable marketing, de créer mes propres applications?
Avec les outils de low-code et de no-code, c'est tout à fait possible. Si vous me permettez une petite digression, de nombreuses personnes ont des fonctions de contrôleur de gestion, des responsables comptabilité, mais dans leur vie privée, ils sont peut-être photographes, amateurs, et ils vont construire leur propre site web, bien souvent avec un outil no-code, low-code. Alors, je ne citerai pas de marque, mais ces outils fourmillent sur le marché. Et donc, ces gens-là qui ne sont pas informaticiens, dans leur vie privée, utilisent déjà des outils no-code pour réaliser des choses. Et donc, dans l'entreprise, les technologies low-code, no-code, comme Pega, s'adressent à la fois à des développeurs professionnels qui vont aussi maîtriser cette compétence parce que leur entreprise s'est dotée d'une plateforme low-code pour construire des processus, pour construire des intégrations au système d'information et notamment manipuler la data, pour construire aussi maintenant des modèles d'intelligence artificielle, de marketing décisionnel, par exemple. Mais au-delà des informaticiens professionnels ou des développeurs, on va avoir de nombreux utilisateurs métiers qui sont, c'est vrai, parfois technophiles, qui vont prendre quelques heures de formation à la technologie et construire parfois simplement des prototypes qui vont ensuite être confiés à des informaticiens pour passer en production, mais parfois vraiment dans ce mouvement qu'on appelle développeur citoyen, ou si vous me permettez l'anglicisme, citizen developer, parfois de vraies applications métiers qui sont déployées en production et qui ont été construites essentiellement par des utilisateurs de ces fonctions métiers.
Alors, si on parle un peu des données, parce que savoir construire une application, c'est bien, mais tout ça, ça se rattache à des architectures de données, à des bases de données de différents types, décisionnels, opérationnels, etc. Si je maîtrise pas cette partie-là, je vais développer, entre guillemets, un peu n'importe quoi. Je vais développer du jetable. Est-ce que c'est vraiment, je comprends, pour un photographe indépendant, c'est largement suffisant. Pour une entreprise, est-ce que c'est raisonnable d'aller dans cette direction-là?
C'est là qu'on voit la différence. Alors, toutes les technologies low-code ou no-code, entre guillemets, ne se valent pas ou n'ont pas la même finalité. Et en effet, une des problématiques de certaines technologies low-code, no-code est qu'elles incitent au développement du shadow IT. Alors, pardonnez-moi à nouveau cet anglicisme, mais je pense que
Non,
vos
non, mais
auditeurs le
on connaît
connaissent.
bien, en effet, et en décisionnel, par exemple, il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont installé des logiciels dans leur coin.
Cela va créer dans l'entreprise de nouveaux silos. Il va être très difficile de maîtriser la donnée, de savoir quelle est la donnée la plus fraîche, quelle est la vraie donnée, la master data sur certains domaines. Et cette problématique de shadow IT et de prolifération de développement non contrôlé dans l'entreprise fait que souvent, on peut avoir une vision jetable du low-code ou du no-code. Maintenant, il ne faut pas confondre la finalité et le moyen. Avec le low-code et le no-code, on peut faire du jetable. On peut faire aussi des vraies applications stratégiques d'entreprise qui respectent la politique d'urbanisation du système d'information, qui ne dupliquent pas les données. Et je pourrais esquisser quelques éléments en ce sens dans la technologie Pega. Tout comme avec du développement spécifique, on peut aussi faire du jetable, créer des silos dans l'entreprise et faire des applicatifs qui ne tiennent pas sur la durée. Et donc, en quelques mots, chez Pega System, on travaille avec les plus grandes organisations du monde pour créer des applicatifs stratégiques au cœur de leur activité, qui vont bien entendu respecter l'urbanisation de leur système d'information, le rôle de la donnée et qu'ils ne vont pas dupliquer la donnée. Et donc, en low code, no code, on peut faire des workflows, on peut faire des écrans, mais avec Pega, on peut également créer des intégrations au système d'information et donc sourcer l'ensemble des données maîtres du système d'information, par exemple, d'un ERP, d'un référentiel client, d'un référentiel fournisseur, et les utiliser dans les applications Pega construites en low-code, no-code, sans avoir besoin de les dupliquer dans un nouveau silo.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'en termes de fonctionnalité, si on rentre un peu dans le concret, est-ce que ça veut dire par exemple que je peux interdire à un utilisateur de dupliquer une donnée ou de recréer une donnée si elle existe déjà quelque part dans le système d'information? Est-ce que je peux mettre des règles comme ça pour encadrer un peu ce shadow IT?
Absolument. Chez Pega, on considère que la gouvernance, justement, de ces mouvements de développement citoyen au sein de l'entreprise, elle est essentielle pour la réussite d'un tel programme. Et notamment, excusez-moi, notamment dans Pega, on fournit avec notre plateforme des outils de gouvernance pour justement éviter le shadow IT, qui vont permettre, par exemple, de donner des tableaux de bord à la cellule centralisée qui va déterminer les nouvelles applications qui vont être créées. Cette cellule va aussi proposer des coachs low-code aux développeurs citoyens ou aux développeurs classiques qui vont construire de nouvelles applications. Et ils vont aussi fournir des composants réutilisables déjà éprouvés à l'échelle de l'entreprise pour que ces derniers ne soient pas réutilisés. Parmi ces composants, on va retrouver très classiquement des composants d'intégration comme le single sign-on ou les mécanismes d'authentification au protocole de l'entreprise, mais on va retrouver aussi les objets métiers. Donc typiquement, dans cette couche de gouvernance, un objet métier client directement interfacé au référentiel client sans dupliquer les données, avec son modèle objet, son prénom, son nom, sa date de naissance, son objet aussi lié au consentement, puisque la notion de consentement est essentielle avec le RGPD. Cet objet métier client va pouvoir être utilisé par les développeurs no-code qui vont accéder facilement au prénom, au nom de famille, à la date de naissance, à l'historique des commandes, sans avoir besoin de reconstruire cet objet.
Alors c'est parfait, vous parlez de gouvernance, c'est un sujet extrêmement important, la conformité au RGPD et à un certain nombre d'autres règles. J'ai bien compris quand vous présentez, vous dites on va pouvoir réutiliser, mais est-ce qu'on peut interdire de faire des choses interdites? Par exemple, est-ce que je pourrais dire, bah tiens, telle donnée, c'est une donnée personnelle, et donc je vais interdire aux développeurs low-code de l'utiliser sans un certain contrôle ou quelque chose comme ça. Je comprends bien le côté, on va pousser au partage, ça c'est très bien, mais est-ce qu'on peut aussi éviter de prendre des risques?
Il y a en effet des fonctions plus contraignantes, dites des garde-fous, qui vont empêcher un développeur low-code d'accéder à n'importe quelle donnée ou de l'exposer dans un service ou dans un écran. Et le premier de tous ces garde-fous au sein de la plateforme Pega sur ces développements, c'est que le cycle de déploiement des applications low-code passe par un workflow dont la décision finale appartient à la cellule de gouvernance. Alors, je ne vais pas vous faire tout le workflow, mais le développeur citoyen va créer son application, la faire tester, mais à la fin, le déploiement automatisé en mode DevOps, je ne sais pas si c'est une thématique que vous abordez régulièrement, reste à la main de cette cellule de gouvernance qui va pouvoir aussi vérifier que toutes les bonnes pratiques ont été respectées, notamment l'accès aux objets, les bonnes intégrations, etc.
Autre question qui va intéresser énormément justement les gens chargés de la gouvernance, par exemple la notion de catalogue de données. Est-ce qu'avec votre outil, je vais pouvoir avoir un catalogue des données, de leurs usages à l'intérieur de la plateforme Pega?
Absolument. Dans la plateforme Pega, on a différents catalogues justement d'objets métiers qu'on va mettre en œuvre dans les applications et qui vont pouvoir être réutilisables. Alors, on a en effet le catalogue des données regroupées par objet métier, car c'est ce qui parle en fait davantage aux développeurs citoyens. Un objet métier comme un client peut avoir des centaines d'attributs, et donc lui, il réfléchit en objet métier client, fournisseur, produit, etc. Donc, on a le catalogue de ces objets métiers. On va aussi avoir le catalogue des canaux. Les canaux, ce sont les différentes interfaces sur lesquelles l'application va exposer des fonctionnalités ou des, par exemple des parcours, une interface classique, hein, un site web, mais ça peut être dans un CRM existant où on va intégrer des applications des applications développées en no-code, ça peut être sur un canal de messagerie comme WhatsApp ou dans un chatbot. Donc on va avoir le catalogue des objets métiers, le catalogue des canaux, le catalogue des processus, parce que dans l'entreprise, il y a un certain nombre de processus qui vont être réutilisés à travers différentes branches métiers, comme des approbations en cascade, et un catalogue aussi de règles métiers, c'est-à-dire des règles métiers au sein d'une entreprise. Ils vont avoir une règle métier qui définit ce qu'est un client, par exemple VIP, en fonction de son historique de commande, en fonction de son profil. Et donc, cette règle métier est un client VIP. Elle va être créée une fois et ensuite maintenue sur la durée par cette cellule de gouvernance. Et elle va être réutilisée à travers différentes applications dans l'entreprise pour la gestion de commandes, pour la logistique, etc.
C'est très intéressant parce qu'on pourrait imaginer le no-code comme un espèce de chaos général dans lequel l'équipe de gouvernance ne retrouverait aucun de ses petits. Mais le fait que vous ayez pensé à cette notion-là et que vous placiez la gouvernance, le catalogue, etc. bien au cœur de ce système fait qu'à l'inverse, je connais bien des départements de gouvernance qui aimeraient que, en vous écoutant, aimeraient que leur développeur métier, plutôt que d'utiliser Excel, utilise une plateforme de ce type-là.
Et c'est tout à fait vrai. En fait, on réapplique des concepts qui ont fait leur preuve dans le développement classique, les gestions de sources, les principes de gouvernance. Et en effet, la plateforme Pega s'adresse aux très grandes organisations qui ont une forte complexité, une forte tension réglementaire avec de nouvelles réglementations, de nouvelles lois à appliquer et une concurrence accrue d'entreprises plus récentes, plus digitales et donc parfois plus agiles dans leurs outils. Et du coup, la technologie Pega, qui est construite par Pega System, elle comporte nativement ces outils pour s'adapter aux problématiques actuelles. Et le low-code, no-code, c'est une vision pour Pega qui est plus inclusive, qui va permettre à nos clients de moins ressentir l'impact de la pénurie de développeurs qui est annoncée par les grands analystes, hein, une pénurie de développeurs qui ne fait que s'accroître. Plus inclusive aussi parce que ça va impliquer des utilisateurs métiers, des utilisateurs qui ne sont pas des développeurs à la construction des applications, mais elle va porter tous ces outils directement dans la technologie, à la fois de gouvernance, mais aussi de réutilisation. Car l'objectif final, c'est l'agilité, c'est de pouvoir plus rapidement modifier les applicatifs métiers, s'adapter aux nouvelles contraintes, aux nouvelles réglementations, aux nouvelles stratégies, Et pour ça, il faut pouvoir réutiliser un maximum ce que l'on a déjà fait. Typiquement, la règle que je vous énonçais dans l'exemple est un client VIP. De nombreuses entreprises, qu'elles soient en low-code ou en développement classique, vont avoir dupliqué cette règle 1 million de fois dans leur système d'information. Et le jour où cette règle change, car un directeur marketing a dit bah, « les clients VIP, cette fois-ci, on va aussi intégrer ces clients-là », le temps d'implémentation de ce changement à travers toutes les branches de l'entreprise est bien plus long si cette définition existe à de multiples endroits et va entraîner beaucoup de tests de non-régression. C'est pour ça qu'on construit la plateforme Pega avec ses outils, avec ses avantages, pour s'accommoder de cette complexité.
Vous avez parlé de pénurie de développeurs. En même temps, c'est aussi un peu entre guillemets à cause de vous, parce que si je comprends bien, on a quand même moins besoin de développeurs. Si ces développeurs citoyens se développent dans tous les départements de l'entreprise, j'ai moins besoin de développeurs dans mon département informatique.
On aura toujours besoin de développeurs. C'est essentiel. Sur chaque projet Pega, il y a toujours des développeurs professionnels qui parfois ne font pas du Pega, mais je vous donne un exemple. L'Agence nationale pour l'habitat française qui a choisi Pega pour implémenter le système MaPrimeRénov. Donc, on construit leur applicatif, y compris les écrans qui sont à disposition du citoyen sur maprimerénov.gouv.fr en Pega, en low-code, mais ensuite l'implémenter de manière parfaite avec la charte graphique de l'Agence nationale pour l'habitat, etc. On va avoir des besoins de développeurs experts qui vont implémenter du Angular JavaScript, du React, justement pour intégrer parfaitement ces parcours utilisateurs no-code sur le site web de l'entreprise. Donc, on aura toujours besoin de développeurs. Je pense que l'émergence des technologies low-code et no-code ne sont pas à la racine de la pénurie de développeurs, mais plutôt une des conséquences de cette pénurie de développeurs.
Une dernière question, si on se pose un peu la question du retour sur investissement. Parce que des outils qui permettent à l'utilisateur de faire des choses, j'en citais un tout à l'heure, Excel, on est à peu près tous d'accord sur le fait que le retour sur investissement d'Excel, c'est une horreur, parce que le développeur, vous voyez, je fais un lapsus, hein, l'utilisateur va passer parfois des heures à essayer de changer un petit truc, développer une macro, etc. Si on est malade, on a deux solutions, c'est aller voir le médecin ou faire médecine. Mais le retour sur investissement de faire médecine pour se soigner soi-même, c'est pas rentable. Est-ce que là, on n'est pas un peu dans le même risque? C'est-à-dire que si je prends par le petit bout de la lorgnette, je vais dire, ah ben ça me coûte moins cher parce que je vais réussir à avoir peut-être moins de développeurs informatiques. Mais de l'autre côté, si j'additionne tout le temps passé de l'ensemble des utilisateurs qui vont se mettre à développer, est-ce qu'ils ne feraient pas mieux de faire leur métier plutôt que de développer? Est-ce que développer, ce n'est pas un métier de quelqu'un?
Développer, c'est absolument un métier de quelqu'un. Et c'est pour ça que souvent, on ne dit pas développer, en tout cas chez Pega, dans notre construction. On parle plutôt de construire. Ça ressemble plutôt à du Lego. Alors, votre question, elle est très vaste, notamment sur le retour sur investissement. Si on additionne l'ensemble des coûts associés du retour sur investissement, je ne pense pas que j'aurais une formule parfaite. Les retours de nos clients sont les suivants. En premier lieu, elles n'ont pas moins de développeurs en choisissant Pega. Elles ont juste plus de développeurs, enfin, elles ont autant de développeurs, sauf que davantage travaillent sur l'innovation et sur d'autres projets que la situation avant Pega, où en fait 85% de leur budget de développement n'était pas dédié à l'innovation, mais simplement à ce qu'on appelle maintenir les lumières allumées, c'est-à-dire s'assurer que ce qui existe déjà continue de tourner et de fonctionner. Donc, un budget très faible à l'innovation. Et donc là, leurs développeurs peuvent explorer de nouvelles pistes, faire des prototypes sur la réalité augmentée, aller sur ChatGPT, les technologies d'intelligence artificielle, ou faire de l'innovation également sur Pega. Donc ça, c'est vraiment, la masse de développeurs ne diminue pas dans les entreprises qui utilisent Pega. Le vrai retour sur investissement qui est mentionné par nos clients, et les clients de Pega restent très longtemps avec Pega, donc c'est pas simplement des clients qui restent 2 ans, 3 ans ou 5 ans, on a un taux de fidélité qui est l'un des plus hauts de l'industrie. C'est parce qu'ils, justement, cette capacité de réutilisation de ce qu'ils ont déjà construit. Et donc, on s'adresse à des très grands groupes parce que le vrai gain de valeur lorsqu'on utilise Pega, c'est celui-là. On va faire un premier projet qui va être un peu plus rapide qu'un projet en développement spécifique en règle générale. Mais le vrai gain, c'est surtout qu'on va construire un certain nombre d'assets, de règles métiers, de processus, d'IHM à la bonne charte graphique, de robots logiciels, d'intégration au système d'information qui vont accélérer le prochain projet parce qu'on va tout réutiliser. Et on va réutiliser pas en copiant et en collant ce langage no-code ou ce développement no-code, mais vraiment parce qu'on va le réutiliser et donc il n'existera qu'à un seul endroit. Et donc, si dans 3 ans, on a un changement d'une de ces règles, d'un de ces écrans, de la charte graphique ou de l'intégration à tel référentiel, on va le changer à un endroit et automatiquement, ça va se répliquer, ça va être effectif dans toutes les applications qui utiliseront ce code rationalisé, on va dire. Et c'est là le vrai gain d'agilité pour nos clients. Finalement, quand elles regardent le retour sur investissement et la valeur que ça leur apporte, c'est pas tant le coût des projets informatiques ou les coûts de maintenance des projets informatiques, c'est les gains métiers qui sont apportés par une amélioration opérationnelle, par une satisfaction client plus forte, par une capacité à vendre davantage de produits ou d'améliorer la fidélité de leurs clients ou de leurs fournisseurs, de leurs assurés ou de leurs allocataires.
Et surtout, d'un point de vue data, de faire ça dans le respect des architectures data, de la gouvernance des données, etc. Vous m'avez convaincu, je voyais le low-code, le no-code comme quelque chose qui pouvait potentiellement créer un chaos d'un point de vue gouvernance, mais vous nous avez expliqué que oui, ça pouvait créer un chaos si on ne le gérait pas, mais qu'il y avait des plateformes comme la vôtre qui permettaient de le gérer correctement et qu'on peut faire du low-code et du no-code tout en respectant la gouvernance. C'est un point extrêmement important. Romain Delalande, merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications. Ceux qui auront envie d'en savoir plus, vous chercheront sur LinkedIn, ils vous trouveront. Vous êtes manager Solutions Consulting France chez donc Pega System, un des spécialistes mondiaux du low-code. Merci beaucoup pour toutes ces explications et on se retrouve très bientôt sur Décidéo pour de nouvelles interviews.
Merci Philippe. Au revoir.
On se retrouve très bientôt sur Décidéo pour un nouveau podcast des passionnés de data.